ses pas du vent. Ses pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Dans des endroits comme ça, vraiment, tu te poses des questions. Comment on a glissé? Comment un projet de société nous échappe? Comment on laisse faire les choses? Qu'est-ce qui s'est produit? Ça fait longtemps qu'on est là et on n'a vu personne. Il n'y a plus rien, il y a de la terre à nu, il n'y a plus d'animaux. C'était plein de choses et tout ça, ça a sauté. Donc on se retrouve dans des campagnes qui sont réellement déshumanisées. Voilà, où tu sais que tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas cultiver là-dedans tout seul avec tes petits bras. Quoi.
C'est pas du vent. Anne-Cécile Bras.
Bonjour. Dans 100 ans, quand les historiens étudieront la montée de la mobilisation citoyenne contre la dégradation de l'environnement, quelle date de départ retiendront-ils? Eh bien, peut-être demain, car demain est annoncé comme la première journée de grève mondiale de la jeunesse. Les collégiens, les lycéens, les étudiants, essentiellement des pays occidentaux, mais pas seulement, vont sortir de leurs établissements pour crier leur colère face à l'inaction de leur gouvernement. Vous les entendrez demain dans C'est pas du vent. Mais est-ce que ce sera suffisant? C'est l'une des questions que se pose notre invité qui vient de publier un petit essai, 85 pages, concis mais efficace. Ne plus se mentir, petit exercice de lucidité par temps d'effondrement écologique aux éditions Rue de l'Échiquier.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Bonjour Jean-Marc Grancil.
Bonjour.
Vous avez cofondé l'espace Darwin à Bordeaux, dans le sud-ouest de la France. C'est un lieu précurseur qui est toujours consacré à la transition écologique et à l'activisme citoyen. Aujourd'hui, vous vivez à La Réunion, où vous consacrez l'essentiel de votre temps à la protection de la faune sauvage. Vous êtes notamment vice-président de l'ONG Wild Angel, qui lutte contre le braconnage en Afrique. Et vous êtes donc un citoyen engagé. Là, vous publiez cet essai dans une toute nouvelle collection de l'éditeur Rue de l'Échiquier, qui s'appelle Les Incisives. Alors, je rappelle que les incisives sont les dents qui mordent en premier et votre livre l'est assez incisif.
Oui, on a voulu provoquer un peu la réflexion, le débat d'idées, sortir des idées un peu convenues et susciter la réflexion du dissensus. Sortir d'un certain unanimisme sur les questions écologiques notamment, qui à mon sens sclérose un peu nos modes d'action et nos réflexions sur ce sujet-là. Et avec cette collection, alors l'écologie est un thème, il y en a d'autres, il sera lancé demain notamment avec Réjeanne Sénac sur les questions d'égalité. Toute cette collection a vocation justement à fracturer un peu nos consciences, à laisser passer la lumière et à provoquer d'autres débats.
Alors le titre est clair, à ne plus se mentir, vous dites qu'on se ment. On se ment depuis de nombreuses années parce que justement on se ment à espérer, pour espérer.
Effectivement, je crois qu'on a du mal à prendre la mesure de l'état de cette planète et de la façon dont nous lui faisons du mal. On a aujourd'hui des niveaux assez vertigineux de dégradation des sols, des écosystèmes naturels. On traite les autres animaux, les animaux non humains, de façon catastrophique, avec une violence inouïe, et qui explique peut-être ce que nous sommes aujourd'hui au monde, une espèce assez invasive et qui est très anthropocentrée, qui réagit en fonction de ses propres intérêts et qui ne voit pas à quel point elle est aussi dépendante de ses écosystèmes, de ses autres êtres vivants, et qui du coup est dans une fuite en avant qu'elle a du mal à appréhender, tant elle est aujourd'hui vertigineusement dangereuse pour elle-même. Elle se retourne contre elle.
Mais malgré tout, on a du mal à accepter les faits.
On a beaucoup de mal à accepter les faits parce qu'on a peu de prise finalement sur ces faits-là, à titre individuel. Et on a souvent été renvoyé à notre responsabilité individuelle, alors que c'est le système dans sa globalité qui nous entraîne avec lui, qui nous englue dans des modes d'action qui finalement font perdurer ces destructions.
Alors on va parler de ce système global, mais vous dites dès le début du livre, et ça peut toucher certaines personnes qui essayent de faire des petits efforts justement dans leur quotidien, vous dites qu'il faut arrêter avec l'hypocrisie des petits gestes. Par exemple, moi j'ai une gourde là pour ne pas utiliser une bouteille en plastique, j'ai arrêté de manger de la viande, j'essaye de prendre le vélo au lieu de prendre une voiture, etc. Ça sert à rien en fait.
C'est pas ce que je veux dire. Évidemment, ces petits gestes nous permettent de nous reconnecter à nos convictions et d'être alignés entre le dire et le faire. Donc c'est très important de les faire. Mais de penser qu'ils vont résoudre la question qui est infiniment plus globale, qui est enchâssée finalement dans nos modes de vie, dans nos relations économiques, dans nos relations internationales. C'est des choses qui nous dépassent très largement. Il ne faudrait pas faire croire et s'illusionner sur le fait que ces petits gestes, même mis bout à bout, parviendront à changer la donne, ne serait-ce que parce qu'on est très peu nombreux finalement à les faire.
Alors il faut voir plus grand, mais pour cela il faut comprendre, vous le dites, hein, le monde dans lequel nous vivons et comment nous en sommes arrivés à une situation où une majorité de pays sont dominés par un système politique qui s'appelle l'oligarchie. Un concept que je laisse le journaliste Hervé Kempf, fondateur de Reporter, le quotidien de l'écologie sur Internet, le soin de définir.
La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et l'oligarchie, le régime oligarchique, c'est le pouvoir d'un petit nombre de gens qui décident entre eux, d'une certaine manière, ils font démocratie, ils discutent, et puis une fois qu'ils sont arrivés à la décision, ils l'imposent à la société par différents moyens. Ils détiennent le pouvoir financier, qui a pris une puissance absolument considérable, qui l'emporte très largement sur le pouvoir politique. Ils ont très largement, j'allais dire, vampirisé les fonctions politiques, et un très grand nombre de représentants élus ne sont pas au service de leur mandant, c'est-à-dire du peuple, au service des électeurs, mais sont au service des puissances d'argent. Et puis aussi, troisième volet extrêmement important dans notre époque, soumis au bain publicitaire et au bain télévisuel, eh bien, très largement, les grands médias de masse sont possédés, contrôlés par ces oligarques, par ces puissances financières et ces puissances politiques.
Jean-Marc Gansil, comment réagissez-vous à ces propos d'Hervé Kempf ?
C'est quelque chose que beaucoup de monde, je pense, a peine à réaliser. C'est-à-dire que finalement, on est dans une forme d'illusion démocratique et ce qui perdure, c'est la violence d'une civilisation industrielle qui, elle, poursuit son objectif sans obstacle. C'est-à-dire que l'accaparement des ressources, la soumission d'un certain nombre de peuples, la production de services et de biens matériels qui ne nous sont pas indispensables, mais qui sont indispensables à cette oligarchie et aux multinationales notamment, qui les produisent, continuent et nous relèguent simplement à des sujets qui vont servir cette ambition-là sans que nos vies, nous puissions nous les réapproprier avec nos propres objectifs. On est soumis à ce système-là qui est aujourd'hui, on va dire, accaparé par cette oligarchie.
Ouais, vous écrivez « Une classe dominante a pris la société en otage ».
Oui, je pense qu'on le voit ces derniers mois. Aujourd'hui, on le voit, quand le peuple s'exprime, il n'est pas entendu.
Vous pensez au mouvement des Gilets jaunes en France, par exemple ?
Je pense aux Gilets jaunes, mais c'est vrai aussi ailleurs. Malheureusement, on a des dirigeants qui sont très inquiétants, qui ont pris les rênes du pouvoir au Brésil, en Russie, aux États-Unis, un peu partout, finalement, même dans notre vieille Europe, et qui, finalement, ont l'air totalement imbriqués avec les intérêts économiques et donnent beaucoup plus, on va dire, de crédit à cette vision économiste et à la volonté de faire perdurer un système qu'aux alertes des scientifiques et du peuple pour changer la donne et inverser un petit peu le cours de l'histoire. Donc on a l'impression qu'on n'arrive plus à avoir de prise sur les décisions qui sont prises en haut lieu par cette oligarchie, par ces élites qui sont très liées les unes aux autres, qui dépendent les unes des autres et qui déroulent leurs projets comme bon leur semble.
Après, quand la foule se mobilise massivement, ça a quand même des résultats. On vient de le voir en Algérie avec le départ d'Abdelaziz Bouteflika.
Et c'est heureux. Heureusement que le fait de manifester, comme l'ont fait par ailleurs en France les Gilets jaunes, a permis d'obtenir des choses, même si c'est fragile, même si c'est pas définitivement acquis. Bien sûr qu'il faut se mobiliser en masse. C'est quelque chose sur lequel il faut compter. Et les mobilisations des jeunes pour le climat cette semaine sont très importantes, car elles montrent qu'il y a une véritable colère. Par contre, il ne faut pas en rester là. Il faut aussi que cette colère, elle nourrisse des actions qui permettent de véritablement changer les choses.
Et puis, il faut vraiment voir, en effet, le système dans son entier. Il y a le rapport d'Oxfam qui dit que la moitié de la population mondiale n'a pas touché le moindre bénéfice de la croissance mondiale qui bénéficie à quoi ? 1% de la population ?
Oui, ou que 26 milliardaires détiennent la moitié des richesses mondiales. C'est quelque chose qui est totalement indécent, choquant. Enfin, j'ai même pas suffisamment de qualificatifs. Aujourd'hui, effectivement, une partie des plus puissants s'accapare l'essentiel des richesses du monde aux dépens des autres. Et c'est quelque chose qui doit nous rendre véritablement mobilisés pour arrêter ça, parce qu'on va tous, on va dire, être aspirés par cette spirale-là.
Oui, mais en même temps, arrêter ça, c'est compliqué, parce que finalement, nous sommes, pour la plupart, des salariés de ces 1% les plus riches, c'est-à-dire que on produit aussi des activités polluantes par nos propres emplois. Donc scier la branche qui nous permet de nourrir nos enfants, c'est pas simple.
C'est exactement ce que je décris dans mon ouvrage, c'est la raison pour laquelle je dis ne plus se mentir. On est aussi, d'une certaine façon, complice. Et on sait qu'il sera très difficile de s'extraire de ce système, parce qu'une partie des emplois qui nourrissent toutes ces familles, qui nous permettent d'avoir un revenu, qui nous permettent de subvenir à nos besoins, sont issus d'activités extractivistes, polluantes, qui détruisent la biosphère. C'est aujourd'hui notre civilisation industrielle qui est sur ce paradigme. Donc, comment s'en extraire ? Il n'y a que des fausses solutions, en fait. C'est très compliqué.
Et c'est pour ça que souvent, d'ailleurs, dans le discours politique habituel, on oppose économie et écologie en disant bah, « attention, hein, vous allez supprimer vos emplois ». Or, ça suffit avec cette opposition, selon l'économiste Éloi Laurent, auteur de « Nos mythologies économiques » publiées aux éditions « Les liens qui libèrent ».
On est au 21e siècle dans un des pays les plus développés du monde. Donc on n'est pas dans un pays pauvre qui cherche à absolument faire de la croissance à tout prix, c'est-à-dire au prix de la destruction de son environnement et de la santé humaine. On est dans un pays qui est déjà extrêmement riche, qui est extrêmement développé. On est au 21e siècle et on entend les poncifs les plus éculés sur... Parce qu'en creux, ce qu'on entend, c'est l'écologie est contre l'économie, l'écologie est contre la croissance. Et donc, il ne faut pas que l'écologie soit un frein pour l'économie. Et donc, elle n'est acceptée que si elle est instrumentalisée. C'est-à-dire c'est comme instrument, et comme instrument en plus d'une fin qui est mais totalement dépassée au XXIe siècle, qui est la croissance économique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune espèce d'esquisse, d'ébauche, de réflexion sur l'idée qu'il pourrait avoir de nouveaux indicateurs de bien-être et de soutenabilité qui pourraient définir ce qu'est une économie vraiment moderne au XXIe siècle. Absolument pas. On est sur un discours qui est quasiment des années 60. Moi, je suis économiste, donc je n'arrive pas de l'extérieur de l'économie. C'est en tant qu'économiste que je m'exprime. En tant qu'économiste parce que je sais qu'il y a, par exemple, une économie écologique, qu'il y a des réflexions qui sont extrêmement nombreuses, extrêmement fécondes sur les nouveaux indicateurs de bien-être et de soutenabilité, qu'il y a une réflexion sur l'économie de l'environnement. Donc l'économie au XXIe siècle, elle a profondément évolué, elle a profondément changé depuis, mettons, les modèles de croissance de Solow des années 50. Donc tout le travail qui a été fait depuis 30 ans pour comprendre qu'on n'échappera pas aux crises écologiques, les systèmes économiques n'échapperont pas aux crises écologiques. La vraie question, c'est d'aller chercher ces mythologies économiques, pas seulement dans le monde scientifique et de la recherche, d'aller les chercher dans le débat public, où elles se sont incrustées. Parce que nous avons affaire à une classe politique qui a 25 ans de retard et qui répète en fait les dogmes économiques d'il y a 25 ans.
Jean-Marc Gancil, votre réaction ?
Alors ma réaction est assez nuancée. J'aimais bien ce que disait Delphine Bateau récemment. Elle disait finalement la croissance n'est qu'un indicateur de la destruction de la nature. Je crois que c'est profondément vrai. On est aujourd'hui dans un système croissantiste, c'est-à-dire qui extrait des matières, qui les transforme avec de l'énergie et qui génère des pollutions diverses. Et ça, c'est quand même ce qui fait tourner la machine.
Mais on nous parle de croissance verte, de développement durable.
Alors pour moi, c'est les fake news d'aujourd'hui. Évidemment, il n'y a pas de compatibilité entre économie et écologie. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus faire de l'économie, bien entendu. Qu'on ne peut pas non plus ne pas réduire l'empreinte des activités économiques que nous avons installées. Mais néanmoins... C'est une véritable illusion que de faire croire qu'on puisse totalement concilier les deux. Je crois qu'il faut assumer le fait qu'un certain nombre d'activités qui nous sont indispensables ont des externalités négatives, comme on dit, ont des impacts négatifs, et les assumer comme telles. Et faire en sorte que celles qui en ont le plus soient tout simplement supprimées et qu'on s'organise différemment. Bon, il y a une infinité d'objets dont on s'entoure, dont on n'a absolument pas besoin. Il y a des économies qui sont extraordinairement polluantes, une infinité d'objets numériques qui sont superficiels, tout sauf indispensables, qu'on nous vend comme étant l'alpha et l'oméga du hype aujourd'hui.
Vous n'avez pas de portable ?
Bien sûr que si. Moi-même, je suis plein de contradictions. On est tous schizophrènes dans cette société.
Mais est-ce qu'il faut installer la 5G ? Est-ce qu'il faut aller
absolument
dans la surenchère
pas.
De la technologie ?
Absolument pas. Il faut faire machine arrière toute et faire en sorte qu'on revienne à l'essentiel, qu'on se libère du superflu, qu'on allège notre empreinte au maximum. C'est vrai que c'est assez consternant d'entendre les revendications sempiternelle de pouvoir d'achat, parce qu'il faudrait être dans un pouvoir de vivre qui n'a pas forcément besoin de tous ces objets matériels pour le faire.
Alors c'est peut-être notre cerveau qui nous pose des problèmes, on en parle juste après une pause musicale.
We'll be right back.
Money is King dans C'est pas du vent sur RFI. Nous sommes en compagnie de Jean-Marc Gansil qui vient de publier Ne plus se mentir, petit exercice de lucidité par temps d'effondrement écologique aux éditions Rue de l'Échiquier.
RFI. Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Il faut redéfinir le grotesque en fait. On ne se rend plus compte que les milliers de petites actions qu'on fait tous les jours sont grotesques pour la plupart. Aussi grotesques qu'à l'époque où tout le monde fumait, par exemple. Quand la clope est arrivée, le médecin fumait dans la pièce du mec qui allait mourir d'un cancer du poumon en lui expliquant « Ouais, c'est pas de bol. » Et on s'est rendu compte que c'était grotesque. Et maintenant, tout le monde le sait. Avec le recul, on se dit que c'était aberrant. Et ben en fait, il y a plein de petites conneries comme ça dans notre quotidien qui sont du même niveau que cette histoire de clope. Et c'est la bonne idée d'arrêter de les faire. C'est ça, la vraie idée.
C'est pas du vent sur RFI.
Redéfinir le grotesque comme nous invite à le faire le chanteur de Chaka Ponk fera, ou alors croire ce que nous savons, mais en sommes-nous réellement capables? Eh bien, ce n'est pas si sûr. Si l'on écoute Sébastien Boller, auteur de Le bug humain, comment notre cerveau nous pousse à détruire la planète, c'est publié chez Robert Laffont.
Pourquoi est-ce que, sachant tous que nous allons être confrontés à des enjeux climatiques et des catastrophes véritablement gigantesques, on va être confrontés à un défi pratiquement insurmontable dans 20 ou 30 ans par rapport au climat, pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à changer de comportement? Pourquoi est-ce que peut-être certains arrivent à changer de comportement, mais à l'échelle mondiale, on est toujours dans une logique d'accroissement de la consommation et des émissions de gaz à effet de serre? Quand on se penche sur le fonctionnement du cerveau, on peut commencer à comprendre ce qui nous pose le plus de problèmes. C'est notre fonctionnement individuel en chacun de nous qui pose problème. Parce que notre cerveau n'est pas véritablement programmé pour avoir une attitude saine vis-à-vis de l'environnement. Il répond à 5 besoins qui lui sont dictés par un noyau qui s'appelle le striatum au centre de notre cerveau, qui fonctionne avec de la dopamine et qui nous donne du plaisir à chaque fois qu'on fait quoi? Qu'on mange, qu'on a des rapports sexuels, qu'on domine nos semblables, qu'on se hisse dans la hiérarchie sociale plus haut que nos semblables, qu'on capte le plus d'informations possibles autour de nous et qu'on fait le moins d'efforts possibles. Voilà. Ça, ce sont les 5 grands objectifs de notre cerveau, on va dire reptilien, de cette partie très profondément enfouie dans notre cerveau qu'on appelle le striatum. Et quand on regarde autour de nous, on voit que ça explique énormément de problèmes. C'est-à-dire que l'humanité aujourd'hui est dans une spirale d'obésité dont elle n'arrive pas à sortir. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait? On consomme de plus en plus, en fait, de vidéos pornographiques sur Internet, grâce au smartphone qu'on a tous dans notre poche. Aujourd'hui, c'est 136 milliards de vidéos pornographiques qui sont visionnées chaque année par l'humanité. Troisièmement, je vous parlais du besoin de statut social aujourd'hui. Ben, vous prenez Facebook, c'est plus de 2 milliards d'utilisateurs quotidiens qui font quoi? Ben, qui cherchent finalement à avoir plus de clics que le voisin. Ça répond à un besoin finalement de se sentir valorisé par rapport aux autres. Et puis enfin, c'est le besoin d'information. Notre cerveau à dopamine, là, qui nous donne du plaisir dans l'instant présent, il veut toujours plus d'informations. Et ça, il la trouve partout aujourd'hui. C'est les chaînes d'information continues, c'est les alertes emails, c'est les textos, le fait qu'on est toujours en train de pianoter, on cherche toujours à nourrir notre cerveau d'informations et il n'y a pas de frein pour ça. Et puis enfin, c'est le fait qu'on a besoin de confort. Notre cerveau est programmé pour faire le moins d'efforts possible, pour le plus de gratification possible. Et donc, ça veut dire qu'on va avoir systématiquement besoin de s'entourer de toutes sortes de facilités, de domotique, de connectique. Le problème, c'est que ces neurones à dopamine ne sont pas programmés pour s'arrêter, ils en veulent toujours plus. On le voit aujourd'hui, quand on enregistre l'activité profonde de notre cerveau, on s'habitue à ce qu'on a et on a toujours besoin d'une dose supplémentaire. Deuxième problème de cette partie de notre cerveau, c'est qu'elle n'a pas la notion du temps. C'est-à-dire que quand on montre des objectifs lointains, catastrophiques, il ne prend pas en considération. Cette dopamine au cœur de notre cerveau ne prend en compte que l'instant présent. Donc il faut vraiment savoir tout ça pour commencer à se dire comment on peut agir là-dessus. Il y a des moyens, la pleine conscience, voilà, changer de normes sociales. Tout ça pour essayer de modifier le fonctionnement de cette partie du cerveau qui nous joue de bien vilain tour.
Jean-Marc Gansil, on est mal parti avec ce cerveau, hein, finalement. C'est dur d'en changer.
Alors ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, ce que dit Sébastien Boller, c'est qu'on est finalement un peu des animaux comme les autres. On répond à des stimuli qui sont ceux des lois de l'évolution, et ce qui fait que nous sommes aujourd'hui les humains que nous sommes, et que ça emprunte à notre histoire profonde. Et puis à la fois, il faudrait pas que ça soit une excuse à l'inaction. Je pense qu'on est aussi, certes, un animal comme les autres, mais aussi on a des facultés qui nous rendent très différents, qui nous permettent de réfléchir, de conceptualiser, de produire des abstractions. On est des gens doués d'intelligence, et je crois que il ne faudrait pas qu'on nous ramène sans cesse à l'idée que c'est foutu puisque notre cerveau ne parvient pas à dépasser un certain nombre de limites ou d'obstacles. Moi, je ne crois pas à ça du tout. Je pense que ça peut être une excuse à l'inaction et qu'on est capable, au contraire, de prendre en considération les faits tels qu'ils sont et aussi de réagir tout simplement parce que c'est de notre survie dont il est question.
Oui, mais comme vous l'écrivez, aujourd'hui, on a remplacé notre courage qu'on a mis bien au fond de notre poche par du confort. On n'a pas envie de changer.
C'est tout le challenge aujourd'hui. On a remplacé notamment le courage par l'espoir, c'est-à-dire qu'on espère un petit peu comme la pensée magique, on croit au génie humain, on croit que les choses vont advenir
par la technologie,
par le fait du Saint-Esprit, je ne sais quoi. C'est confortable, effectivement. Ça va advenir sans qu'on soit, nous, obligés de mouiller la chemise. Ben non. Il va falloir qu'on mouille la chemise si on veut inverser le cours des choses. C'est ça un peu, je crois, la leçon aujourd'hui des temps dans lesquels nous sommes, c'est qu'on a laissé faire, qu'on a attendu, qu'on y a trop cru, que l'espoir a été, comme le dit Raoul von Egum, la laisse de la soumission, c'est-à-dire qu'on s'est soumis à des forces extérieures, à cette fameuse oligarchie, à une croyance dans le progrès, et aujourd'hui il faut qu'on s'en libère, il faut qu'on reprenne nos vies, nos destins en main, et qu'on agisse, qu'on ait le courage d'agir, véritablement.
Oui, parce que sinon on va se retrouver dans une situation où on va devoir s'excuser, parce qu'on aura finalement beaucoup de culpabilité, quand on sera vous, moi, par exemple, à la fin de notre vie et qu'on sera entouré sur notre lit de mort avec nos enfants et nos petits-enfants. C'est en tout cas l'idée de l'association Sorry for Children. Bonjour Grégory Poinsenet.
Bonjour Anne-Cécile. Alors, bonjour Jean-Marc.
Sorry for Children, c'est désolé les enfants, hein, on s'excuse. Alors expliquez-nous le principe de la campagne que vous avez lancée mardi.
Alors en fait, Sorry Children, oui en effet, c'est un projet associatif. Et c'est un site internet qui est un générateur d'excuses, donc qui va vous proposer toutes sortes d'excuses à donner à vos enfants si on leur laisse une planète complètement ravagée. Et bien sûr, l'idée, c'est que c'est un site ironique, c'est du second degré, et c'est surtout l'occasion d'expliquer les enjeux, de reprendre tous les enjeux, notamment la partie psychologique dont parlait Jean-Marc tout à l'heure, et surtout d'orienter vers des centaines d'actions. De la plus simple jusqu'à la plus radicale, on parle de désobéissance civile, on parle des ZAD. Voilà, l'idée c'est vraiment d'alerter et d'inciter à l'action en montrant également que d'autres agissent. Donc on a lancé mardi la campagne La pire excuse et on a à peu près 80 personnalités qui donnent la pire excuse qu'ils pourraient donner à leurs enfants. Et ces photos-là, qui sont collés à l'endroit où on les a prises. On a fait ça en partenariat avec le street artiste Joseph Ely. Les photos sont diffusées sur les réseaux sociaux avec les meilleures actions, c'est-à-dire l'action principale, prioritaire, pour ne pas avoir à donner cette excuse. Comme ça, on se concentre à la fois sur le plus important, c'est-à-dire ce qu'on va dire finalement à nos enfants au moment de mourir, quand on fera le grand bilan, et le plus urgent, c'est-à-dire l'action prioritaire pour ne pas avoir à s'excuser. Donc après, chacun a ses excuses, mais on oriente tout ça dans le cadre de gros bouleversements environnementaux qui vont arriver. Et on est assez proche, nous, des thèses de l'effondrement, parce que c'est le plus sérieux aujourd'hui quand on regarde les perspectives, les études scientifiques. Bah, c'est la perspective, malheureusement, la plus sérieuse.
Et donc finalement, avec de l'humour, vous essayez de sensibiliser pour que les gens passent réellement à l'action.
C'est ça, en fait, j'ai pas l'impression qu'on ait essayé ce levier-là. Le travail des ONG, des politiques, des médias depuis des dizaines d'années est quand même souvent assez lourd, c'est très sérieux. Et nous, on aime beaucoup déconner, hein, on déconne toute la journée. Voilà, on a essayé ce biais-là, histoire de toucher les gens, de les faire se projeter, de les faire réfléchir, et puis de les faire agir.
Et alors, quelle suite vous allez donner à cette campagne ?
Alors, on est avec les organisateurs de la Marche du siècle.
Qui est la grande manifestation qui aura lieu en France ce samedi.
Exactement. Donc là, ils ont appelé les marcheurs à brandir des panneaux « La pire excuse ». On sera ensuite avec le jour de déclaration de rébellion de Extinction Rebellion, le 24 à Paris. Et on a plusieurs autres projets, notamment une pétition à notre Premier ministre, puisqu'il est tout à fait conscient de l'effondrement qui se profile et on va peut-être lui demander quelle est sa pire excuse.
Eh bien, nous serons ravis de pouvoir la médiatiser, sa pire excuse. Merci beaucoup, Grégory Poinsenet. Et alors, Jean-Marc, on va le dire aux auditeurs, hein, vous avez participé à cette campagne. Alors, votre pire excuse, c'est quoi ?
Bon, elle est effectivement dans la lignée de mon bouquin, c'est-à-dire provocatrice. Et il faut la prendre au second degré. Mais j'ai dit, on m'a dit que la non-violence, ça marcherait. Tout ça pour dire que finalement, on est dans une espèce de culte dogmatique du pacifisme qui laisse la voie libre à ceux qui exploitent sans obstacle, je dirais, la nature, le vivant et nous-mêmes, nos vies. Donc je crois qu'il faut qu'on se réapproprie une forme d'opposition radicale. Reste à voir comment. Hein, c'est, en disant ça, on a loin d'avoir tout résolu et on marche sur des œufs. Mais je crois qu'il serait temps d'hausser un peu le ton et, comme le dit Pierre-Henri Castel, de montrer les griffes et les crocs.
Et alors, quand on va sur le site sorrychildren.com, on clique sur votre photo et on voit votre action. Votre action, c'est...
Ah, j'ai décidé de me consacrer résolument à l'abolition de l'exploitation animale sous toutes ses formes. C'est-à-dire ne plus en manger, ne plus les soumettre, ne plus les exploiter, faire en sorte qu'ils puissent retrouver leur liberté. Il ne reste plus que 4% de mammifères sauvages sur cette planète, rendez-vous compte. Il faut préserver ça, c'est un patrimoine essentiel pour nous tous.
Alors que nous, les humains, nous ne représentons que 0,01%
de la biomasse terrestre. Mais on a réussi à faire disparaître 83% des mammifères. Voilà.
Ah ouais. Quelle amplitude. Alors justement, il y a peut-être d'autres solutions que s'excuser. On en parle juste après, pendant que les champs brûlent de Niagara. Parce que comme le dit François, le réalisateur de l'émission, un bon vieux Niagara, ça fait toujours plaisir. Ça fait du bien, Niagara, dans C'est pas du vent sur RFI. Nous sommes en compagnie de Jean-Marc Gansil qui vient de publier Ne plus se mentir, petit exercice de lucidité par temps d'effondrement écologique, publié aux éditions Rue de l'Échiquier.
C'est pas du vent.
des modèles qui montrent, par exemple, que des pans entiers de l'Amazonie pourraient basculer en savane dans les décennies qui viennent avec le changement climatique. En fait, ces seuils, ce qu'on appelle des points de basculement, on peut imaginer un petit empilement de pièces. On en empile toujours une de plus dessus, et puis en fait, elle commence un petit peu à être sur le côté. Et chaque pièce nouvelle qu'on va rajouter n'est pas un changement fondamental par rapport à ce qu'on avait avant. Mais au bout d'un moment, on va rajouter une seule, pas plus que d'habitude, une seule, et tout va s'effondrer.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Et ça, c'est un point de basculement qui fait qu'on va arriver dans un système qui est complètement différent de celui d'avant, et on ne peut pas revenir en arrière.
Pour nous écrire, c'est pas du vent. @rfi.fr.
Jean-Marc Gansil, la mobilisation commence à s'organiser. Il y a la grève mondiale des jeunes. Demain, on verra quelle ampleur cela prend. Qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement ?
Il est salutaire. Évidemment, la jeunesse ne peut être qu'inquiète de l'avenir que nous lui avons préparé. Qu'elle descende dans la rue, qu'elle crie sa colère, me paraît tout à fait sain.
Il y a plus de 1000 mouvements prévus dans à peu près 90 pays. C'est quand même colossal.
C'est colossal. Après, il ne faudrait pas que nous leur déléguions cette responsabilité de façon exclusive en nous dédouanant de la nôtre.
Oui, déjà qu'on leur a légué la dette écologique.
Hein, voilà, nous, on n'a pas réussi. Hein, on a fait notre père excuse, comme disait Grégory à l'instant. Maintenant, entre guillemets, vous vous démerdez. Bon. Évidemment, ça, c'est le risque. C'est l'écueil. Toute la société doit se mobiliser, parents, enfants, travailleurs et autres, parce qu'on est face à des enjeux qui méritent une mobilisation massive. Et c'est bien de voir cette mobilisation qui est en train de germer massivement. Voilà, on est à l'aube de quelque chose de neuf, du moins j'espère. Après, ce que j'espère aussi, c'est que les slogans, les revendications ne s'inscriront pas dans le mainstream, dans la pensée dominante des énergies renouvelables, des petits gestes, de l'incantation des décideurs à agir. On sait bien qu'ils ne le feront pas. Donc je crois qu'il faut radicaliser le discours et montrer une fois de plus les griffes et les crocs.
Alors justement, je vous propose d'écouter des youtubeurs. Ils ont largement participé à la mobilisation de la jeunesse. Et je vous propose d'écouter plus particulièrement cet échange entre deux d'entre eux. Publié sur Facebook récemment. Il s'agit de Vincent Vierza, de Partager c'est sympa, et de Félicien Bogaerts qui, avec le Biais Vert, a mobilisé la jeunesse belge.
Faire une grève, faire une marche, c'est très bien, mais ça existe depuis la nuit des temps, et aujourd'hui on se rend compte que c'est pas suffisant.
Mais c'est surtout, c'est le modèle qu'on apprend. Si les jeunes là, ils se sont jamais mobilisés avant en Belgique, et en France c'est pareil, si ils choisissent de marcher,
c'est pas un hasard.
C'est pas un hasard, c'est qu'ils ont vu ça à la télé, c'est qu'on leur a dit voilà la manière de contester. Et allez-y, utilisez ce vocabulaire-là, parce que nous, on le maîtrise. Et surtout, soyez nombreux, parce qu'on dira combien vous êtes. Et si vous êtes moins nombreux que la dernière fois, on vous le dira. Et si vous êtes très peu nombreux, on vous dira que du coup, vous n'êtes pas légitime. Et à ce jeu-là, on a perdu.
À Bruxelles, il y a un collectif assez exceptionnel, dont le nom m'échappe, qui s'est mobilisé contre le mobilier anti-SDF. En fait, c'est très simple, au lieu de faire des campagnes pour demander à ce qu'on arrête cette persécution des gens qui n'ont déjà rien et qui sont dans le dénuement le plus total et qui crèvent la gueule, c'est très simple. Si tu as par exemple un banc dans un métro avec des séparations, et ben ils vont construire avec des planches, avec tout, avec des morceaux de coussin, je ne sais pas très bien comment ils font leur truc, ils vont reconstruire le banc autour du mobilier anti-SDF pour en refaire un mobilier accueillant pour les SDF.
C'est créatif, mais c'est symbolique. Tu sais, moi, ce que serait agir politique. Moi, j'aimerais que voilà, toutes ces organisations qui se battent contre la misère, mais ils aient toute une branche radicale qui disent, OK, si on est sérieux par rapport au problème de la misère, mais on va créer les conditions. Combien de logements vides ? Eh ben, on va les ouvrir, tu vois ? Qu'on soit comme ça. Mais en fait, on ne l'est pas parce qu'on est dans une posture de demande. Parce qu'on se dit, c'est à l'État, c'est à cette institution de s'en occuper.
Je pense qu'on ne l'est pas aussi parce que c'est resté quelque chose d'alternatif et d'underground, qui est vu par la majorité des gens comme quelque chose de marginal, en fait. Tout comme la désobéissance civile. Aujourd'hui, si on rend la désobéissance civile plus cool, plus tendance, ça finira aussi par devenir quelque chose de beaucoup plus naturel pour les gens, de beaucoup moins effrayant. Il faut arrêter de penser que désobéir, c'est pas cool. Bien au contraire d'ailleurs, quand on regarde un petit peu l'imaginaire cristallisé autour du principe de désobéissance, que ce soit dans le cinéma, la littérature, la poésie, souvent les gens que l'on admire, les gens qui nous font vibrer, ce sont des gens qui désobéissent. Mm-hmm. C'est pas les gens qui marchent bien droit sur le passage clouté, quoi. C'est des gens qui désobéissent. Mm. Qu'est-ce que vous préférez, Bart Simpson ou Monsieur Burns, quoi ? C'est un peu le truc, quoi. Bart Simpson, on le trouve cool parce qu'il en a rien à foutre et qu'il fait sa vie.
Qui se fait punir et que c'est pas grave.
Il faut que ça soit un message permanent que désobéir, ne pas marcher dans les clous, c'est super cool, ça donne du sens à la vie et surtout c'est constructif. Bien c'est plus vivre. Constructif que... C'est vivre, tout simplement.
Jean-Marc Gansil, comment est-ce que vous réagissez à ce dialogue entre deux youtubeurs qui, je le rappelle, ont quand même la capacité de mobiliser des dizaines de milliers de jeunes aujourd'hui?
C'est très intéressant, ce glissement. Parce qu'effectivement, avant, ils étaient beaucoup dans des petits gestes, dans des actions symboliques, dans des trucs à la cool. Mais finalement, ils réalisent que tout ça est relativement sans effet, si ça reste à ce niveau-là. Ils discutent là de radicalité, de désobéissance, de créativité. Tout ça est très important. Et il faudrait que ça s'accompagne par autre chose qui est tout simplement de ne pas déléguer l'action. C'est-à-dire, il ne faudrait pas que les jeunes dans la rue continuent à implorer les dirigeants, les entreprises d'agir. Structurellement, c'est pas leur intérêt.
Mais parce que les marches, c'est ça finalement.
Exactement. Les marches appelaient les dirigeants à prendre leurs responsabilités, à agir. Elles revendiquaient le fait que les entreprises pouvaient faire leur part.
Vous parlez au passé, mais c'est ce qui va se passer demain.
Oui, mais on en a déjà vu d'autres. Mm. Voilà. Donc on pourrait estimer que on est un écho de tout ça dans les marches à venir. Moi, je parie sur le fait qu'une fraction de cette jeunesse commence à intégrer tout ça, a compris qu'il faut faire sécession d'une certaine façon, a compris que seule la menace physique peut faire reculer le pouvoir. C'est triste à dire. On a épuisé les voies législatives, on a épuisé les voies démocratiques, on a essayé d'être constructif, on a proposé des alternatives. Tout ça n'est pas suffisant. Aujourd'hui, il faut hausser le ton, il faut s'interposer, il faut montrer notre désaccord, revendiquer une forme de colère sans qu'elle ne verse dans la haine. Hein. On n'est pas non plus dans la violence gratuite, je pense qu'elle serait totalement contre-productive. Mais il faut montrer qu'on est tellement concerné par cet enjeu vital que ça nécessite des mesures, des actions à la hauteur de ces enjeux. Tout simplement s'interposer face aux destructions du monde. Hein. Et facile à dire une fois de plus. Mais je crois que cette conscience-là, elle est en train de percoler, elle est en train d'infuser dans la tête de ces youtubeurs, comme des jeunes qui vont se mobiliser, ou du moins certains d'entre eux, et un certain nombre de réseaux, comme c'est le cas d'Extinction Rebellion ou de DGR, Deep Green Resistance, ont été très utiles pour diffuser cette pensée critique et appeler à des nouveaux modes d'action.
Alors justement, nous sommes en ligne avec Henri, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes un membre récent et très actif de la branche française du mouvement Extinction Rebellion, qui est parti du Royaume-Uni. Alors, quelle est la philosophie de ce mouvement?
Alors, en gros, la philosophie de Extinction Rebellion, donc, c'est par l'action non violente et de la désobéissance civile, d'établir un rapport de force avec les politiques pour, comme on l'expliquait juste avant, pour se faire entendre, pour pouvoir arriver à quelque chose, parce que... Ça, sinon les choses n'avancent pas. Nous, ce qu'on voudrait en fait, c'est se positionner sur la scène médiatique et politique pour obtenir que la vérité scientifique sur les risques d'effondrement soit partagée au grand public, qu'on se mette à parler vraiment des problèmes et des solutions qu'il y a et pas seulement survoler.
Alors ça passe par quel type d'agenda? C'est-à-dire que le 24 mars, vous allez lancer votre rébellion, c'est ça, en France?
Voilà, en fait, on se déclare en préfecture et on se déclare aux yeux de la société le 24 mars pour ensuite enchaîner par une période d'escalade jusqu'au 15 avril où là se lance la rébellion internationale. Donc les plus de 35 pays où est implantée Extinction Rebellion vont se coordonner pour faire des actions ensemble, simultanées.
Alors il y a des actions qui ont déjà eu lieu. Expliquez-nous quelles sont les actions qui vont être... Alors évidemment, pas les futures, mais celles qui ont déjà eu lieu pour qu'on comprenne ce que ça veut dire une action de désobéissance civile.
Bon, il y en a de trois types en réalité. Il y a les actions les plus connues, les plus médiatisées, qui sont les actions de blocage. À Londres, ils ont bloqué simultanément 6 ponts samedi entre 10h et 16h, donc ça a quand même perturbé les flux de la société. Mais il n'y a pas que ça, on peut aussi, il y a eu des actions en Angleterre devant Downing Street, ils se sont recouverts de sang, ils ont mis du sang par terre, de la peinture rouge pour symboliser les morts liées au climat. Il y a aussi des blocages de mines de charbon. Voilà, et donc ça c'est surtout le premier type, mais il y a deux autres types de sensibilisation, donc dire la vérité sur ce qui se passe, impliquer les médias, impliquer les gens. Et des actions de vision qui visent à montrer le type de futur que nous voulons voir, qui visent à en parler et bien entendu qui s'appuient sur des faits scientifiques.
Alors comment est-ce que vous, personnellement, vous avez décidé de vous radicaliser ?
Alors, c'est déjà un processus qui est plutôt long et qui est par étapes. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Ça commence par une prise de conscience. Alors, ça peut venir plus ou moins jeune, mais ça se fait de plus en plus fort. On se documente, on se renseigne, on en parle. On arrive ensuite à des actions plus individuelles où on se met à réfléchir à notre consommation, à notre influence sur le monde. On se met à boycotter des marques, des symboles. Et puis ça suffit pas, en fait on se rend compte que marcher pour le climat une fois de temps en temps, faire une manif, ça suffit pas, ça ne marche pas parce que il faut réformer en profondeur. Et donc on se réunit ensemble pour faire pression sur les politiques qui ont le rôle et le devoir de légiférer et de réglementer l'industrie qui est à l'origine de ce désastre.
Merci Henri pour ce témoignage et on suivra évidemment dans C'est pas du vent votre mouvement. Jean-Marc Gansil, pour l'instant ces mouvements sont plutôt des mouvements dans les pays occidentaux. Les jeunes, je pense par exemple aux jeunes en Afrique, se mobilisent un petit peu mais doucement alors que pourtant c'est le continent qui va être le plus impacté. Est-ce que il y a des moyens de mobiliser cette jeunesse-là aussi ?
Bien sûr, et je pense qu'elle se mobilise, mais je pense qu'on le sait moins. Je pense que les médias s'y intéressent pas, peut-être. Je pense que on le voit au Brésil. Il y a des peuples premiers ou des tribus qui concrètement ont pris les armes contre la déforestation qui les menace et qui menace leur survie même. Il n'y a pas de raison que ça soit différent en Afrique et je pense qu'il y a un vrai potentiel d'opposition parce qu'ils n'ont tout simplement malheureusement plus rien à perdre. Nous, on est encore dans un tel niveau de confort qu'on en reste encore à des approches assez symboliques, assez intellectuelles qui ne nous menacent pas dans notre chair. Je crois qu'au contraire, en Afrique, on est allé dans des degrés de destruction de la biosphère qui sont tels qu'ils susciteront invariablement et très certainement des actions au-delà de la désobéissance civile. Je ne vois pas comment ça pourrait être autrement et je pense que c'est même salutaire si on veut sauver ce qui peut encore l'être.
Mais enfin, la désobéissance civile, il faut être courageux quand même, hein, parce qu'on a vu en France et dans de nombreux pays les répressions des forces de l'ordre. Je me souviens de Notre-Dame-des-Landes, qui était donc cette mobilisation pour ne pas qu'il y ait la construction d'un aéroport dans l'ouest de la France, près de Nantes. Les zadistes, comme on dit, ceux qui étaient donc installés dans cette zone à défendre, ont vu arriver 1500 CRS armés jusqu'aux dents. Ça
Absolument.
Peut être très violent.
Exactement. C'est pour ça que j'écris dans mon bouquin « Nous allons être mis à l'épreuve de ce que nous sommes vraiment et de ce que nous voulons vraiment ». Aurons-nous, à la place de cet espoir peut-être vain, le courage de nous interposer pour qu'une réalité concrète émerge ? C'est nous mettre parfois en danger physiquement, c'est prendre le risque d'aller éventuellement en prison, c'est changer une trajectoire de vie, c'est des choses qui sont très lourdes de conséquences. Et effectivement, on n'a pas du tout été habitué à ça. On a été éduqué dans un mythe du progrès, un mythe de la croissance, un mythe du confort qui nous a un peu englué dans tout ça. Et il nous faut réapprendre la bravoure, réapprendre le courage, réapprendre la fraternité, prendre le combat d'une certaine façon, avoir des outils dialectiques, physiques, qui nous permettent justement de nous interposer efficacement. Non pas chérir la violence pour la violence, ça serait totalement stupide et je crois que personne ne le veut, surtout pas nuire à l'intégrité physique d'autrui, mais par contre, y a les franco, quoi. À un moment donné, quand à Notre-Dame-des-Landes, effectivement, il a fallu défendre une vision alternative de société constructive, souhaitable, résiliente, certains ont eu le cran, le courage d'y aller, de s'interposer, il faut leur rendre hommage. Ils ont réussi, comme à Hambach en Allemagne, comme dans d'autres lieux où effectivement ces luttes ne se sont pas résignées, n'ont pas abandonné. Et c'est pour nous des vraies inspirations, je crois, aujourd'hui. Il faut aller vers ça parce que sinon, on n'y arrivera pas.
Alors après, c'est peut-être plus facile, même si on sent bien que c'est quand même compliqué, mais c'est peut-être plus facile dans des pays où les droits de l'homme sont à peu près respectés.
Absolument, vous parliez tout à l'heure.
Parce que les défenseurs de l'environnement payent déjà
un très lourd tribut dans le monde. Par centaines, ils sont condamnés, voire tués, hein, très souvent d'ailleurs. Donc les militants écologistes payent justement ce lourd tribut. Et c'est vrai que dans nos démocratie, puisqu'elle s'appelle comme ça, même si c'est une illusion, je crois, pour beaucoup d'entre elles, l'arsenal répressif au service de l'ordre établi, extraordinairement coercitif. C'est d'ailleurs, si on fait un petit parallèle avec le mouvement des Anonymous, auquel beaucoup d'entre nous ont beaucoup cru en matière de désobéissance.
Qu'est-ce que c'est rapidement ?
Les Anonymous, c'est en fait des hackers qui s'introduisaient dans des systèmes, qui perturbaient le fonctionnement d'un certain nombre d'outils électroniques, de communication, qui pirataient des sites internet, des choses comme ça. L'arsenal répressif a été tellement augmenté après les affaires de NSA, Chelsea Manning et ainsi de suite. Toute la surveillance s'est mise en branle pour faire en sorte qu'aujourd'hui, cet arsenal répressif soit tel, on soit amené à payer tellement lourdement cette désobéissance que ça a tué le mouvement. Et là, on voit avec les débats qui ont eu récemment cours à dans notre Parlement que c'est de plus en plus dur de manifester, c'est de plus en plus dur de s'opposer parce que on s'expose encore davantage. Donc ce courage, il va falloir effectivement en faire preuve et ça va être culturellement compliqué.
Alors vous citez un peu à la fin de votre livre le climatologue français Robert Votard et vous dites finalement il va falloir éviter l'ingérable et gérer l'inévitable.
Ce qu'on a en perspective, tout simplement, c'est l'inhabitabilité de notre planète. Il est possible que les degrés de température soient tels à quelques décennies, que tout simplement nous ne puissions plus faire pousser de légumes et que nous ne puissions tout simplement plus vivre sous ces chaleurs-là. C'est ça la perspective. Et je crois que du coup, ça mérite une mobilisation totale.
Merci Jean-Marc Gancil d'être passé dans C'est pas du vent. Je rappelle le titre de votre livre, Ne plus se mentir, petit exercice de lucidité par temps d'effondrement écologique. C'est publié aux éditions Rue de l'Échiquier dans la collection donc Incisive. Si vous aussi vous avez envie de vous mobiliser dans votre pays, racontez-nous comment vous faites, expliquez-nous sur la page Facebook de l'émission. Vos témoignages nous intéressent. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous pour votre fidélité. Demain, nous recevrons des jeunes, des professeurs et des organisateurs de la grève mondiale des jeunes pour le climat. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Et à demain, même planète, même heure.